du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro 681 du Coq à l'âne avec nos coqualiens du jour, Jean-Claude Hérault, Michel Roussel, Patrick Faure. Salut les gars.
Salut, salut. Salut.
Et notre invité, Philippe Lecoyer. Bonjour Philippe.
Bonjour.
C'est la première fois qu'on reçoit un avocat dans le Coq à l'âne. C'est la toute première fois. Du coup, bah, on a quand même pas mal de questions à poser. Et la première importante, à quoi ça sert un avocat?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bah, je crois d'abord qu'il faut comprendre que dans tout pays démocratique, il y a un droit qui est un droit essentiel, qui est le droit de la défense. Mmh. Ce droit de la défense, il ne peut s'exercer que pour autant qu'il y ait une personne derrière la personne qui mérite d'être défendue, c'est un avocat. Mmh. Cet avocat, c'est quelqu'un qui va prendre fait et cause pour son client. Quand je dis fait et cause, ça ne veut pas dire accepter sa cause. Ça ne veut pas dire accepter ce qu'il a fait, ça veut dire tout mettre en œuvre pour le défendre. C'est important hein, cette démarche, parce que c'est une démarche qui est une démarche souvent compliquée, intellectuellement compliquée parfois dans certains pays parce qu'on sait très bien que les droits de la défense ne sont pas respectés. Mmh. Dans notre pays, heureusement, ils le sont, mais pour autant, l'œuvre de défense est une œuvre importante, déterminante et essentielle à la construction de la démocratie. Mmh. Si vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'un avocat, mais c'est aussi qu'est-ce qu'un bon avocat.
Voilà une bonne question. Qu'est-ce que donc un bon avocat, Philippe?
J'aimerais pouvoir y répondre facilement.
C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur.
C'est ça, oui.
C'est comme le bon vin aussi.
Oui, aussi, c'est pareil.
Je suis pas sûr que le fait que ça, qu'il vieillisse...
Est-ce qu'il est devenu meilleur avec le temps?
Non, pas forcément. Pour être honnête, pas forcément. Non. Non, ce qu'il faut poser comme question, c'est quand est-ce qu'on a effectivement une certaine pertinence dans la réponse à apporter à notre client? On peut avoir une vision qui est une vision assez restrictive. La vision restrictive, c'est la vision de dire je fais une analyse de la jurisprudence, je fais une analyse des lois et je réponds très techniquement. Cette réponse, à mon avis technique, c'est une vision un peu trop restrictive de ce que doit être un avocat. Mmh. L'avocat doit être un stratège. Stratège, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit aborder la question de son client sous l'angle global. Mmh. Un client, c'est un homme avant tout, quelles que soient les questions posées, qu'elles soient en droit de la famille, en droit pénal, en droit social ou autre, c'est d'abord un homme. Et la réponse, elle est par rapport à cet homme, par rapport à son vécu, par rapport à son expérience, par rapport à tout ce qui est autour de lui. Et donc, en considération de ces éléments-là, nous allons devoir définir une stratégie. Cette stratégie, elle va se définir avec lui. J'insiste sur le terme stratégie et le fait que l'avocat soit un stratège et non pas qu'il œuvre par stratagème.
Ouais, d'accord.
La différence est essentielle. Mmh. Donc, voilà, l'avocat qui va peut-être se différencier de ses autres confrères, c'est celui qui aussi sait mettre avec son client en place une certaine stratégie qui n'est pas forcément une stratégie exclusivement juridique, mais qui tient compte de l'ensemble des paramètres.
En préparant l'émission, je me suis rendu compte que je pensais pas qu'il y en avait autant. Le nombre de spécialités, c'est hallucinant. Hein. C'est le droit des personnes, droit pénal, immobilier, rural, de l'environnement, public, propriété intellectuelle, commerciale, des sociétés, et j'en passe. C'est quoi ta spécialité?
Moi, je suis en droit des affaires.
Voilà.
Un droit social aussi, hein. Parce qu'on s'est quand même un peu opposé.
Ça en fait partie dans les affaires, forcément.
Faut quand même le dire, on l'a dit hors antenne, mais on peut le dire pendant l'émission, c'est quand même vachement opposé, et notamment lundi après-midi au Conseil des Prud'hommes à Gap. Mais c'est avec beaucoup de... Moi, j'ai vécu avec beaucoup de satisfaction, mais il faut je rajouterais à ce que dit Philippe, il faut en plus, se mettre dans la peau de la personne qu'on défend. Si on n'y est pas dedans, on n'est pas bon à la barre.
Et si elle te met mal à l'aise, cette personne, comment tu fais, Philippe? Parce que, à un moment donné.
Oui, mais un défenseur syndical, il est plus à l'aise.
Alors, ce que je disais, c'est
qu'un avocat. Dire, c'est pas évident.
Il doit y avoir.
Souvent, on entend dire, l'avocat, ouais, il défend des voyous.
Ouais, alors, moi, je justement, cas de conscience.
Voilà, c'est ça, cas de conscience.
Le cas de conscience. Lorsque tu défends, par exemple, quelqu'un dont tu as l'intime conviction qu'il est coupable, ça va être compliqué, ça. On refuse pas? Comment ça se passe?
Sur un plan déontologique, on peut refuser.
Ouais.
Il y a une clause de conscience, comme ça peut l'être pour tout un ensemble d'autres personnes. Je pense aux journalistes, il y a une clause de conscience.
Mais c'est déjà un verdict rendu, quelque part.
Non, c'est que l'avocat n'estime pas pouvoir mettre tout en œuvre pour défendre son client.
Ça veut pas dire qu'il est coupable.
Ça veut strictement rien dire. Ça veut simplement dire que lui, en son fond intérieur, estime qu'il est dans l'incapacité de le défendre. Après, faut bien comprendre que défendre un client, c'est pas accepter sa cause. C'est aussi expliquer. Expliquer pourquoi un homme qui est né, qui était un bébé, en est arrivé là où il est. Ouais. Le, défendre le, dans le cadre du procès Barbie, ça ne veut pas dire pour autant que celui qui a assuré sa défense acceptait pleinement la clause de Barbie. Ouais. Ça veut simplement dire qu'il a aussi tenté d'expliquer comment quelqu'un qui a eu une certaine éducation, qui a eu un environnement, peut en arriver à ce type d'exaction à un moment donné.
On va parler... Non, c'est bon. Ouais, non. Oui. Non, c'était non, uniquement.
Mais comment parler des prud'hommes tout à l'heure. Je voulais dire aussi à notre ami Jean-Claude qu'il n'y a pas que des mauvais patrons, quoi.
Ah oui, ah bah oui.
Il parlait du droit des salariés.
Tu as bien fait de le dire.
C'était une boutade.
C'était une boutade. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, puisque aujourd'hui, je suis président d'une mutuelle et donc je suis patron.
T'es le boss.
T'es un boss.
J'ai fait les deux.
T'es chef d'entreprise.
Qu'est-ce que ça veut dire un bon patron?
Comme il n'y a pas que de mauvais patrons. Il n'y a pas que de mauvais salariés. Il y a des patrons qui font n'importe quoi. Je me rappelle
comme
là-bas.
Comme salariés, ouais, je suis d'accord.
D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est quand Philippe en s'opposait et qui, dès le début, dès qu'on allait à la barre tous les deux et qu'il montait le ton et qu'il faisait son spectacle, je dirais.
Ah, parce que toi, tu ne fais pas de spectacle, toi.
Mais
Jean-Claude,
et chaque
quand
fois,
même.
Je lui disais, Maître Lecoyer. Si vous dites tout ça et alors toujours c'était les renvois. Il faisait ça parce que son...
c'est une stratégie.
Non, mais
c'est
parce que son dossier était creux et chaque fois il disait, notre dossier est creux.
Et avocat et juge.
La parole est à l'avocat. Tu peux te défendre.
Pas bon, c'est pas bon ça. Hein.
Mais alors, c'est beaucoup apprécié. Je sais pas ce qu'en pense Philippe. Mais...
Ouais, j'ai toujours eu beaucoup de considération pour Jean-Claude.
Bon, ça va alors. Ça va.
Ça veut pas dire que tu es coupable. Hein.
Non, mais
quand il y a des employeurs qui sont de mauvaise foi, qui payent pas les salaires, qui payent pas les heures supplémentaires, alors qu'on a la preuve qu'elles ont été réalisées, bon, après, il faut défendre le dossier, quoi.
Ouais. Mais si tu as un employé qui tire au flanc, et...
ouais, quand oui, tu mais, fais ça,
c'est,
tu...
mais ça, c'est ça, compliqué ça, aussi, ça, hein.
Oui, mais
non,
ça
non, mais moi aussi, j'étais patron, c'est pour ça, je te
oui,
dis.
Oui, mais je sens bien, mais tu es toujours patron.
Non, je le suis plus, maintenant, je suis passé de l'autre côté.
Ah, merde,
et justement, je fais comme si j'étais mon propre employeur. C'est ça qui est formidable.
Il a fait l'inverse.
C'est le bon plan.
Il faut avoir connu les deux côtés.
On va parler du plus célèbre des avocats de France. Évidemment.
Le ministre,
tout à fait. Garde des Sceaux. Il a présenté il y a quelques jours au Conseil des ministres son projet de loi visant à restaurer la confiance envers la justice. Avec c'est compliqué en ce moment. Il parle de changements majeurs qui sont prévus, comme par exemple, alors là, Philippe va nous aider, la généralisation des cours criminels départementales. Le ministre de la Justice, il prévoit la suppression notamment des jurys populaires pour certains crimes. Tu peux nous éclairer un peu sur le sujet?
Oui, alors,
très rapidement,
pour essayer d'être le plus pédagogique possible.
Ouais,
vous savez sans doute qu'en matière pénale, il y a aujourd'hui 3 degrés de juridiction. Mmh. Le tribunal de police, pour les contraventions. Le tribunal correctionnel, pour tout ce qui est délictuel. Et enfin, les cours d'assises pour tout ce qui est criminel. Le projet, qui est un projet qui était déjà dans les tuyaux, depuis déjà quelques temps, puisqu'il y avait déjà une réforme qui avait été initiée, consiste à dire nous allons créer une sorte de deuxième cour d'assises d'un sous-niveau. Ce deuxième cour d'assises d'un sous-niveau, c'est celle que tu évoquais, savoir les cours d'assises criminelles, je crois que c'est le terme qui est employé. C'est le terme qui est employé. Ces cours d'assises criminelles ont vocation à traiter les petits crimes, en quelque sorte, puisque ce sont ceux qui placent les personnes face à un risque d'emprisonnement maximal de 20 années. Principalement, ça concerne tout ce qui concerne les délits sexuels. Enfin, les crimes sexuels, viols principalement. On parlera peut-être de tous les crimes en termes d'inceste, viol incesteux. Ça correspond principalement à ce type de crime.
D'accord.
Le principe qui est posé aujourd'hui, c'est de nous dire, pour tous ces crimes, petit crime, nous dit-on, en fait, d'une certaine façon. Au lieu d'avoir un jury populaire, comme ça a toujours existé depuis grand nombre d'années, on mettra en place uniquement un jury composé de magistrats professionnels. 5 magistrats. Pourquoi est-ce qu'effectivement la profession est assez vent debout par rapport à ça? Parce qu'il faut comprendre que s'il y a une justice qui est une justice assez parfaite, c'est bien la justice des cours d'assises. Dans une cour d'assises, il faut comprendre qu'il y a un principe qui s'appelle l'oralité, qui va supposer que l'instruction soit faite dans son intégralité à l'audience. L'audience va être longue, parce qu'effectivement, on va entendre les témoins, les victimes, multiples personnes vont être entendues, des experts, et tout cela vont s'exprimer. Et les jurés qui n'ont pas connaissance du dossier de l'instruction vont trancher en leur âme et conscience sur la base uniquement des éléments qui leur sont communiqués durant toute l'audience. Mmh. Et on a des audiences qui vont durer 2, 3, 4, 5 jours, voire parfois un mois, voire plusieurs mois. Mmh. C'est une justice qui est coûteuse. C'est une justice qui correspond à l'esprit que les avocats se font de la justice. Mmh. Alors aujourd'hui, l'idée, elle est plutôt une idée de rentabilité. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, réduisons les coûts. Cette justice coûteuse qui dure, il faut peut-être mieux faire que ce soit des professionnels qui tranchent, mais c'est une nouvelle fois séparer le justiciable ou tout un chacun citoyen de sa justice. Mmh. Aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous peut se trouver à être juré. Il suffit qu'il soit tiré au sort et il peut être juré. Mmh. Demain, pour un certain nombre de crimes, ça ne sera plus possible. Mmh. Ça pose une deuxième difficulté, c'est de dire tous ces crimes sexuels. Et on sait qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, ils font débat. On a parlé d'un certain nombre d'affaires, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure,
oui, peut-être, on va enchaîner
à l'occasion de nos échanges. Pour tout un ensemble de crimes sexuels, les victimes estiment qu'il est important que ça soit placé sur la place publique, que ça soit mis sur la place publique, qu'on puisse évoquer ce qu'elles subissent, ce qu'elles ont subi, que ce qu'elles subissent encore. Dès lors qu'on rentrera dans un système qui sera très proche du tribunal correctionnel, avec une durée limitée, avec des débats beaucoup plus courts, de fait, ces victimes auront le sentiment d'être un peu laissées pour compte. Mmh. Ça aussi, ça pose une problématique. Je vais juste, parce qu'on avait évoqué cette question lorsque tu m'avais parlé de, notamment des différents sujets qui pourraient être évoqués à l'occasion de cette rencontre, je vais citer une interview,
oui.
Un extrait d'une interview d'un avocat célèbre.
Oui.
Voilà ce que disait cet avocat. L'intervention des citoyens est une bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges. Il n'y a rien de plus démocratique que la cour d'assises. Maintenant, exit le peuple. Ça va se faire dans l'entre-soi. Moi, je vous demande de savoir qui, d'après vous,
c'est Dupond-Moretti.
Dupond-Moretti.
Exactement. En 2017, il avait déclaré ça, effectivement, lorsqu'il n'était pas encore ministre et qu'il était, effectivement, avocat. Tout à fait. Et comme quoi, on peut changer d'avis.
Oui.
Bon, inutile de te demander si tu es pour ou contre. Et effectivement, tu es plutôt contre cette idée.
Il y a dans la réforme, le projet de réforme de Dupond-Moretti, des choses qui sont tout à fait intéressantes. Mmh. Cette question-là, à mon avis, constitue une vraie difficulté.
Alors justement, Philippe, il y a des dizaines de cas chaque semaine d'affaires de justice et de verdicts qui parfois déchaînent les passions. Et nous, autour de cette table, simples citoyens, sommes confrontés parfois à des décisions de justice qui peuvent nous désarçonner, hein, car visiblement, bah, nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants des dossiers. Nous, on n'est pas effectivement dans la salle et on ne sait pas évidemment tout ce qui se passe. Un ou deux exemples à citer. Tout d'abord, l'affaire des policiers brûlés. Là, on en parle évidemment à Viry-Châtillon. C'était en 2016. 13 prévenus, 5 condamnés, 8 acquittés. La cour d'assises des mineurs de Paris donc a condamné en appel des jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion criminelle. Visiblement, personne n'était content de ce verdict. Les policiers, d'une part, et les prévenus de l'autre, les policiers qui trouvent que les peines ne sont pas assez lourdes et qu'il y a eu trop d'acquittements, des acquittements qui ont également semé le trouble entre les accusés. Et alors ceux qui étaient acquittés et ceux qui étaient condamnés, puisque bagarre donc a éclaté d'une part dans le box des accusés, mais également dans la salle d'audience. Alors, vu de l'extérieur, nous, effectivement, on peut penser que 6 à 18 ans de prison pour ce qui ressemble ni plus ni moins à une tentative d'assassinat, c'est vrai que ça peut paraître peu. Et puis, on peut aussi ne pas comprendre pourquoi il y a des personnes qui étaient accusées au départ, qui étaient peut-être condamnées et qui se retrouvent acquittées.
C'est tout le problème de la justice.
C'est compliqué, ça, hein.
C'est compliqué de juger.
Pas que la justice, de la police aussi. Parce que dans l'affaire dont il parle, il y a eu une enquête de police.
Qui a été malmenée.
Moi j'ai eu des infos. Alors,
qui a été malmenée.
Par médias que tu
aimes
pas.
Oui, non, mais il n'y a pas que Mediapart qui en a parlé. Tu sais que je m'intéresse aussi à Mediapart, hein, même si je trouve que quelquefois, bon, c'est un peu les procureurs de la nation.
J'ai lu des témoignages sur Mediapart qui laissent à penser quand même que l'enquête judiciaire a été
bâclée.
Donc on en arrive à des situations comme ça. Et ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que ces affaires-là, faut pas les prendre à la légère. Quand la justice est mal rendue, ça pose des problèmes de fond, quoi, y compris des conflits.
Philippe,
Sur cette affaire à proprement parler, je peux pas en parler puisque je ne connais pas les tenants et les aboutissants.
Bien sûr.
Ce que je peux parler de façon générale, ce dont je peux parler
c'est
de façon générale. De façon générale, c'est que, comme je le disais, c'est très difficile de juger. Ça paraît très simple lorsqu'on est comme ça. Mais lorsqu'on doit juger et prendre une décision, on change complètement d'avis sur ce qu'est la justice. Et d'ailleurs, c'est intéressant de parler à des jurés, on en parlait il y a quelques instants, de cours d'assises, quelques temps après. Ils n'ont jamais le droit d'évoquer ce qu'il s'est dit dans le cours du délibéré, mais par contre, ils peuvent avoir leur ressenti. Et ce ressenti, je peux vous assurer que ça les fait changer d'état d'esprit sur ce qu'est être juge.
Ouais, oui, ça j'imagine.
C'est très compliqué
que ça doit être juge, quelque chose de terrible.
Il faut tenir compte de l'ensemble des paramètres d'une affaire. Les paramètres d'une affaire, ils sont nombreux. Il y a bien sûr les faits, mais il y a les circonstances. Il y a également les personnalités, parce qu'on juge également des hommes, et ces hommes, on les juge au travers de ce qu'ils sont. Et donc, lorsqu'on met bout à bout tout ça, on arrive effectivement à un équilibre qui n'est jamais parfait. Puis, le jugement n'est jamais une décision parfaite. Elle est par nature une sorte de compromis entre plusieurs paramètres dont le juge doit tenir compte.
Puis c'est d'autant plus difficile dans le contexte, avec la pression des réseaux sociaux. Je veux dire, c'est tout de suite, c'est des accusateurs et des juges, des procureurs.
Des procureurs, il y en a plein, les réseaux sociaux.
Les verdicts sont rendus.
Comme dit Macron.
Je veux dire, auparavant.
Oui. Il y a 65 millions de procureurs.
Alors. Oui. Non, on est d'accord, et c'est un peu le souci qui pèse sur soit sur des juges, des jurés ou des avocats. Et c'est hyper compliqué, quoi.